Je dois avouer qu'il m'arrive de prêter aux plantes des sentiments humains. Au pied d'un très grand arbre, macoré du Gabon ou Meranti de Sumatra, je ne puis m'empêcher de le trouver un peu hautain, gentiment narquois, comme amusé par l'étrange organisme bilatéral et bruyant qui grouille au bas de son tronc, regarde dans l'air pour tenter d'apercevoir les feuilles, cherche des fruits dans la litière, avant d'y soudainement poser culotte, manifestant ainsi qu'il vit à une échelle de temps, de nature bien différente, dans laquelle les problèmes d'élimination n'ont pas trouvé de solution très élégante. Francis Allais, ce soir, notre invité, à l'occasion de cette merveilleuse exposition qui continue à Paris, qui s'intitule « Nous, les arbres », mais à l'occasion aussi de tous ces livres qui parlent des arbres, des plantes, des animaux et du rapport au vivant. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Nous avons choisi pour vous, cher Francis, Amazonia. Vous la connaissez, cette chanson ?
Oui, je crois, oui.
Votre première histoire d'amour avec une plante, c'était quand ? Et avec quelle plante, Francis Allais ?
quand je l'ai vu, j'avais aucune idée de ce que c'était parce que je ne m'intéressais pas aux plantes.
C'est ça l'amour.
Oui, il y a un premier contact. C'était en 57, j'étais à l'université et je me passionnais pour les animaux. Et je suis tombé sur cette petite plante qui s'est révélée être une capsule bourse à Pasteur. Et j'ai gardé un dessin de cette époque-là.
C'était quoi? Elle était belle? Quelles étaient ses particularités pour vous séduire à ce point?
Alors, vous ne connaissez pas la capsule?
Non, je suis désolée.
Non, c'est joli. Les fleurs sont petites, mais très élégantes. Il y a des fruits triangulaires très bizarres. Et puis surtout, elle a poussé toute seule. Et l'année d'après, il y en avait dans tous les pots, sans que j'aie eu besoin de m'en occuper. J'ai trouvé ça génial, presque miraculeux. Je me suis dit, si j'avais un animal, il faudrait que je le soigne, que je retire ses excréments, que je supporte ses cris, que je... Bon, bref, je préfère les plantes.
Oui, mais les plantes parlent.
Bien sûr.
Elles s'expriment.
Bien sûr.
Elles peuvent être bavardes.
Non, je les trouve assez silencieuses. Elles disent l'essentiel.
Et vous êtes toujours amoureux?
Pas de celle-là, non.
Ah, vous avez changé.
Un millier de fois.
Alors, quelle est votre première histoire d'amour avec un arbre et lequel?
Non, vous me posez des questions qui me dérangent beaucoup. J'ai pas d'histoire d'amour avec les arbres, je les étudie.
Si.
Mais non.
À force de vivre
mais
au-dessus.
Je les aime beaucoup.
Force de les caresser,
Je les caresse pas. Mais non.
Le tronc.
Mais non.
Vous les regardez, vous les caressez.
Non, excusez-moi, je rencontre très souvent des gens qui caressent les arbres, qui leur font des bisous. J'ai rien contre. Hein.
Mais il paraît que ça fait vieillir beaucoup plus longtemps
et
sereinement.
C'est possible, mais je le fais pas.
Et vous dormez pas parmi les arbres, si?
Ah, si.
Vous dormez au-dessus des arbres.
Au-dessus, à côté, dedans, partout. Oui, non, ça c'est pas le problème.
Bon, alors le premier arbre avec qui vous avez une relation particulière.
Ah, chez mes parents, en Seine-et-Marne. Un petit châtaignier sur lequel je montais très facilement. Et arrivé en haut du châtaignier, j'avais pied sur les branches d'un pin de Corse, d'un pin laricio de Corse, qui m'emmenait à 30 mètres de haut. Ça, c'était magnifique. C'est là que j'ai pris le goût de grimper dans les arbres.
À partir de quand avez-vous décidé de faire de votre passion et de votre vocation une profession?
Eh bien, il a suffi que j'abandonne les animaux. Parce que, comme tous les étudiants à l'époque, j'étais passionné par les animaux. J'étais même allé assez loin. J'avais commencé à publier des choses. Mais voilà, les plantes ont balayé tout ça.
Et à l'époque, vous étiez un des rares à vous intéresser à ce qui apparaît comme vivant peut-être, mais inerte et n'ayant pas de statut ni de véritable existence.
J'ai un ennemi qu'il faut que je vous révèle. Aristote. 4 siècles avant notre ère, c'est lui qui a dit que les plantes, c'était des êtres vivants, bon, peut-être, comme vous dites, pas très intéressants, parce qu'ils ne savaient ni marcher, ni parler. Un philosophe de grande qualité, peut-être, mais un exécrable botaniste.
Mais il a fait la même chose avec les femmes, alors il y a peut-être une relation.
Je crois qu'il ferait mieux de rester dans la philosophie, qui était son vrai métier.
Et donc, il vous a fallu batailler par votre observation d'abord, ensuite par vos dessins, car vous êtes un grand dessinateur, vous êtes un grand voyageur, vous prenez des risques pour assouvir votre passion et vos démonstrations scientifiques rigoureuses. À l'époque, vous étiez bien un des rares à vouloir faire un plaidoyer pour les plantes et la reconnaissance des plantes comme les animaux.
Oui, c'est vrai.
Depuis, ça paraît une banalité, mais à l'époque...
Je suis content de voir que ça progresse. Oui, mais au début, c'est vrai que c'était pas évident. Mais mon adversaire reste Aristote, parce qu'il a tellement influencé notre civilisation occidentale que 25 siècles après lui, la plupart de nos contemporains pensent comme lui vis-à-vis des plantes. Pas intéressant, ça marche pas, ça parle pas, donc voilà.
Au coin du champ, l'aventure, pour vous, Francis Allais, vous avez été et vous continuez à beaucoup voyager, à vous installer sur le fait des arbres, sur la cime des arbres, on en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce que la passion a commencé justement à côté de chez vous ou faut-il vraiment arpenter le monde pour comprendre l'universalité des architectures végétales?
Non, à côté de chez moi, c'est vrai, vous avez raison. J'étais gamin, quoi. C'était pendant la guerre. Et puis ensuite, ça a continué dans d'autres pays, parce que les arbres, ils sont bien partout.
Ça dépend. parce qu'il y a des arbres qui ont été, je ne sais pas si on peut employer ce terme de colonisés, qui ont été déplacés. Est-ce qu'un arbre peut-il être bien partout?
Si on le met dans un climat qui lui plaît, il n'y a pas de problème. Il peut être à l'autre bout du monde, du moment que le climat lui plaît, il souffre pas du dépaysement.
Combien d'arbres ont-ils voyagé?
Tous les arbres ont voyagé. On en connaît 100 000 actuellement, plus ou moins, ça augmente vite. Mais ils ont tous voyagé, ils sont pas nés là où vous les voyez.
Donc la notion d'arbre natif ou d'arbre appartenant à des territoires particuliers est totalement fausse.
Je n'y adhère pas, parce que je pense qu'un arbre, ce qu'on appelle un arbre local, c'est un arbre exotique, mais qui est exotique depuis tellement longtemps qu'on a oublié qu'il était exotique. Et donc on le considère comme un arbre de chez nous.
Les arbres qui dansent, vous les avez rencontrés?
C'est pas des arbres, hein, c'est 2 mètres de haut.
Bah c'est déjà pas mal.
Non, c'est très peu, ça. J'appellerais pas ça un arbre.
Mais ça
c'est
vous vrai fait pas peur?
2 mètres de haut?
Bah qui danse, oui, 2 mètres de haut qui danse, oui.
Le fait qu'il danse me gêne pas du tout. Je trouve ça extrêmement curieux. Très beau d'ailleurs. Oui, oui.
Et pourquoi danse-t-il?
On sait pas. Et ils ont forcément des récepteurs d'ondes sonores, puisque c'est en faisant du bruit qu'on les fait danser. Ils n'ont pas d'oreilles, mais ils ont des récepteurs d'ondes sonores, sinon ils ne réagiraient pas. C'est une plante de Chine tropicale, le Yunnan.
Et les arbres qui pleurent?
Ça, c'est les Canaries, l'île de Hierro. Ah non, mais si vous... si on se lance dans la liste des arbres curieux, on en a pour fort longtemps.
Mais vous êtes un savant, Francis Allais, et ce, depuis des décennies. Ce qui vous intéresse, c'est pas du tout le sensationnel, mais c'est dégager les grandes lois de compréhension du vivant et de ce vivant qu'on ne considère pas encore assez aujourd'hui, même si vous l'avez dit tout à l'heure, de grands progrès sont faits.
Oui, je suis un peu optimiste, là.
Pas tout le temps.
Un peu optimiste.
Un peu optimiste parce que depuis 25 ans que vous nous avez alerté sur cette importance de ce qu'on appelle les poumons de notre existence, les choses ont apparemment progressé, mais vous avez récemment signé un appel pour qu'on arrête quand même le massacre des forêts primaires. Et vous avez des plans pour l'avenir, pour la survie de notre planète.
C'est vrai, c'est bien normal, je m'occupe d'écologie et avec les plantes on est particulièrement bien placé. Je voudrais dire qu'on vit une époque exceptionnelle si on veut assister au progrès de nos connaissances sur les plantes. Jamais ça ne s'était produit, enfin, pour moi c'est tout à fait nouveau, on est dans une période superbe.
Alors comment expliquez-vous, Francis Allais, la contradiction entre les connaissances de plus en plus rigoureuses, de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, de plus en plus universalisables, puisque tous les chercheurs s'échangent toutes les informations bien sûr, tout moment, et en même temps, l'exercice des tutelles politiques qui continuent à ne pas écouter vos démonstrations scientifiques.
Il n'y a pas d'explication, c'est deux mondes différents qui ne se parlent pas. Il n'y a pas d'autre explication. Il va falloir que ces idées-là fassent leur progrès, sinon on est mal barré.
Vous remarquez, au cours de la rédaction de vos nombreux livres, Francis Allais, que ce sont les poètes qui, peut-être le mieux et le plus, et le plus tôt possible, ont réussi à comprendre ce que c'était qu'une plante ou ce que c'était qu'un arbre. Est-ce que ce sentiment qui a été jugé à l'époque, et là je parle de la période du romantisme, était considéré comme exacerbé et pas très normal, ce sentiment de la nature?
Je voudrais m'exprimer là-dessus. Moi, je pratique le langage scientifique. C'est bien normal, c'est mon métier. Mais je m'aperçois qu'il a des limites. Il y a un moment où vous ne pouvez plus avancer. Alors, soit on arrête, soit on embraye sur la poésie. Et là, on va immédiatement beaucoup plus loin. Les exemples sont innombrables. Je pense spécialement à Paul Valéry, parce que j'habite dans son coin.
Moi, je vous propose d'écouter la voix de Claude Lévi-Strauss, grand anthropologue devant l'éternel, qui va parler de l'existentialisme et de la séparation de l'homme d'avec la nature. C'est une archive INA du 23 juin 1976.
Je vous dirais que l'existentialisme qui, à mes yeux, représente, et ça n'est pas du tout une critique, bien au contraire, Mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, est éloignée de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, que je dénonçais tout à l'heure. En séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celle que nous connaissons par expérience directe et qui engage nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore.
Il nous manque déjà cet homme-là.
Claude Lévi-Strauss. Oui, parce que c'était un ethnologue qui, quand il partait sur le terrain, recensait tout, pas seulement les rites, les coutumes, la parenté, mais aussi la botanique, les pratiques médicinales.
Bien sûr, il avait raison.
Ben, parlons de ce principe et de ce concept d'humanité. Pensez-vous que les arbres ont beaucoup été exclus de l'humanité ?
Pas exclus, mais utilisés pour ce qu'ils peuvent nous apporter d'utile.
C'est-à-dire vu uniquement comme des...
C'est matérialiste, des... voilà. Ouais. C'est juste de la prédation.
Donc pas considérés pendant de nombreux siècles pour ce qu'ils sont réellement.
Exactement.
Et comment expliquez-vous cela, Francis Allais ?
Parce que c'est tellement simple de se désintéresser de quelque chose. Surtout si ça peut être exploité et ramener des ressources. Si on commence à s'y intéresser, ça va devenir difficile de l'exploiter. Et donc c'est beaucoup plus simple de rester dans cette vision très négative de la plante. Ça permet de la battre, de la couper, de la tronçonner, de la manger, etc., etc.
À un moment, dans un de vos livres, je crois que c'est dans Plaidoyer pour la forêt tropicale, Sommet de la diversité, c'est le titre de ce magnifique livre, vous assistez à l'arrivée D'abord, vous percevez dans cette forêt une sorte de bruit de camion lointain. Puis ensuite, parce que vous êtes aussi un conteur, on suit avec vous les différentes perceptions de ce massacre. Ensuite, vous comprenez qu'il s'agit bien d'un gros camion qui vient s'installer sur un sentier dans la forêt. Ensuite, ce camion s'arrête. Et après, qu'est-ce qu'il va faire ?
On entend des bruits de tronçonneuse. Et ça, c'est répugnant. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une exploitation en forêt tropicale. Pour moi, c'est un viol. Voilà. C'est quelque chose d'impardonnable, d'insupportable. Voilà. On ne peut pas supporter ça. Et pourtant, c'est presque mon quotidien en ce moment.
Ben, vous nous racontez aussi qu'une fois l'arbre abattu, et vous nous précisez que l'arbre qui a été abattu ce jour-là était un jeune arbre, et que sa chute a entraîné une sorte de tremblements de terre,
oui,
pour toutes les espèces vivantes,
oui,
dans
vrai.
Tout le territoire. Comme si c'était un séisme qui ne s'arrêtait pas.
C'en est un. Quand le tronc arrive au sol, vous avez un séisme, en effet. Ça fait comme une pierre dans une flaque d'eau, ça fait des ondes concentriques.
Alors, on parle beaucoup des forêts d'Amazonie. Vous les connaissez bien, Francis Allais.
Oui.
On parle beaucoup de ces forêts qui ont brûlé tout cet été et qui continuent d'ailleurs
à brûler
en ce moment même, alors que la presse s'en désintéresse. Mais c'est pas pour ça que ça ne continue pas. Comment expliquez-vous ces incendies ? Pensez-vous que ça soit le fruit uniquement d'un néolibéralisme effrayant, qui rapporte beaucoup d'argent, ou est-ce que ça a à voir aussi avec des pratiques agricoles ancestrales, exercées par les populations qui vivent sur ces territoires-là?
Non, c'est pas les populations ancestrales qui détruisent la forêt. Je crois que c'est le lobby de l'agro-business brésilien qui a toujours été extrêmement puissant. C'est bien antérieur au gouvernement actuel. Mais maintenant, avec le gouvernement Bolsonaro, ils ont la route libre devant eux. Alors, je crois qu'il y a la conjonction fâcheuse d'une année très sèche et d'un abandon des limites écologiques qui existaient avant le gouvernement actuel.
Vous militez pour la protection et même le maintien, mais aussi le développement des forêts primaires à travers le monde. Pourquoi ?
Une forêt, forêt primaire, c'est équitablement les arbres et les animaux. Non, il y en avait une en Europe, très très loin dans l'Est, à la frontière de Biélorussie, ça s'appelle Białowieża. Et malheureusement, le gouvernement polonais actuel est un peu du même genre que celui du Brésil.
Vous avez signé une pétition, justement, contre l'atteinte faite à cette forêt primaire en Pologne.
Des milliers d'entre nous en ont signé, mais ça ne sert strictement à rien. Ils sont totalement hermétiques à tout conseil venant de l'Europe de l'Ouest.
Qu'est-ce qu'une forêt primaire, scientifiquement parlant, Francis Allais? C'est une forêt où les hommes n'ont jamais touché aucun des arbres.
Ils sont tous passés. Hein. Les hommes passent partout. Mais ça ne détruit pas la forêt primaire. Voilà, c'est une forêt qui n'a jamais été défrichée ni exploitée. Elle peut l'avoir été, parce que c'est très rare sur la planète actuellement une forêt qui n'a jamais été touchée. Alors il faut qu'il se soit écoulé un temps suffisant pour qu'elle redevienne primaire.
Combien de temps ?
Alors ça dépend si vous êtes dans les tropiques où ça pousse toute l'année, 7 siècles, ou bien si vous êtes ici où ça ne pousse qu'une petite partie de l'année, 10 siècles, 1000 ans.
Et vous envisagez un projet pour l'avenir pour étendre ces forêts primaires ?
Pas pour les étendre, puisqu'on n'en a plus.
On peut pas les agrandir.
En tout cas, on peut pas accélérer.
Ce sont des sanctuaires de l'humanité.
On peut pas accélérer le processus. S'il faut 10 siècles, eh bien, il va falloir attendre 10 siècles.
Et si les hommes détruisent toutes les forêts primaires, que se passera-t-il ?
Ben, il se passera qu'on est nul. Voilà. Je le savais un peu. Ça le confirmera.
Et comment et pourquoi expliquez-vous qu'au cours des 50 dernières années, nous, les êtres humains, quelles que soient les latitudes, avons-nous porté tant atteinte à notre nature, avec un grand N?
Là, je crois que c'est le libéralisme, c'est le marché. Je vois pas d'autre raison. Et le marché, ça implique un certain mépris du vivant. Il s'agit de vendre, il s'agit pas de respecter. Ça me dégoûte, voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une baisse de vigilance de nous, les hommes, par rapport au plaisir et à la méditation que peut nous inspirer la joie de l'observation de la nature ?
Si, si, sûrement. Seulement ça joue sur une petite poignée d'individus, pas la masse. Non, effectivement, il y a des gens qui vivent de la forêt et qui s'en portent très très bien. Moi, je peux l'attester dans mon cas. Mais c'est combien de personnes qui se ressentent ça ? Très très peu. Les plus importants, les plus puissants, ben c'est les tronçonneuses et les camions. Voilà.
On va pas jouer de la nostalgie, mais on va quand même écouter la voix de Jean Giono qui raconte son enfance en Provence et l'importance des paysages pour son imaginaire sur la nature. C'est une archivina du 1er juillet 1965.
L'architectonie du paysage, la ligne des collines, la forme des arbres, la couleur des oliviers, tout ça donne une sorte d'harmonie extraordinairement subtile et extraordinairement composée. Ce sont les raisons qui me donnent ma paix. Je ne l'aime pas d'une façon totale, je l'aime avec des restrictions, comme on aime généralement.
Mais il a quand même une importance considérable au point de vue sentimental dans votre œuvre et dans votre formation littéraire.
Ben bien sûr, on peut pas s'extraire d'une façon totale du pays qui vous entoure. Fatalement, ce pays-là collabore avec vous et vous impose certaines formes de pensée. Ce sont ces formes de pensée que j'ai essayé d'exprimer dans presque toute mon œuvre. Des paysages comme ceux que j'ai sous les yeux sont également sous les yeux de mes personnages et par conséquent, je m'en sers.
Alors aujourd'hui, on s'en sert de moins en moins de l'observation de la nature, force est de le constater, parce que la nature a beaucoup changé. durant le XXe siècle et à toute vitesse, Francis Allais.
Oui, mais je suis pas entièrement de votre avis parce que je constate qu'il y a un intérêt de plus en plus grand du public face à la nature.
Et de plus en plus fort, on le voit avec ce que vous faites, à la fois en termes de livres, en termes de cinéma, en termes d'expériences scientifiques, et puis aussi l'amour des arbres et l'amour des livres portant sur les arbres. C'est comme si c'était une renaissance.
Oui, je suis de cet avis. Un responsable politique, s'il envisage unilatéralement de couper des arbres, eh ben il va avoir affaire à la population.
Enfin, c'est pas ce qui se passe au Brésil pour le moment.
Non, je parle de la France, là.
Mais vous pensez que notre président ne s'intéresse pas aux arbres ?
Pas du tout. Il a jamais montré le moindre intérêt pour ces arbres.
Eh bien, justement, je vous propose de l'écouter. C'était il y a très peu de temps.
Mais l'écouter.
On va l'écouter. Oui, mon cher Francis Allais, vous allez l'écouter. Il va répondre à la question d'un jeune garçon, Thomas, à propos de la transition écologique. Vous savez, c'était le 3 octobre 2019 quand il fait ses grandes rencontres avec nous.
Allez-y, ça m'intéresse. Pour s'expliquer.
Vous avez parlé tout à l'heure comme quoi ça commencera en 2025, avec une transition jusqu'à 2040, c'est ça? Comment pouvez-vous prévoir à si long terme, alors que votre réforme ne prend pas en compte l'écologie? Depuis le début de votre quinquennat, vous communiquer sur ça avec des hashtags, etc., mais rien n'est fait. Comment allez-vous adresser ces problèmes-là? Je sens que pour les jeunes comme moi, la retraite serait plutôt sauver la planète et pas cotiser, etc. Merci.
Merci.
D'abord, vous avez raison. Alors, bon, vous m'avez fait un énorme tacle par derrière en disant que je faisais que des hashtags et que j'en avais rien à faire. Moi, je plaide que c'est pas juste, mais il faut le plaider en acte. Non, mais il faut le plaider en acte. Vous savez, votre génération qui arrive à la citoyenneté, ma génération qui est en responsabilité politique, c'est la première qui a des choses à faire concrètes. Il y a eu le temps plus facile de ceux qui avaient à prendre des lois pour le futur. Les 5-8 dernières années, on faisait des super lois et on disait, dans 2040-2050, vous verrez, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors nous, on n'a pas de chance, vous et moi, vous en tant que citoyen, moi en tant que président, nous on doit prendre les décisions maintenant. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Non. Si on prend le réchauffement climatique, je vais quand même défendre ma cause hein, et mon bout de gras. La France, elle a une situation, je parle devant votre maire qui est un ancien d'EDF. On a une chance, nous, hein. C'est notre parc nucléaire. C'est des travaux pratiques maintenant. On est aux travaux pratiques. Donc on y passe, il faut le faire, mais je ne vous laisserai pas dire qu'on ne fait rien. C'est faux, mais c'est difficile. Il faut plutôt aider le gouvernement à le faire et à l'expliquer. On a interdit toutes les nouvelles explorations et exploitations d'hydrocarbures sur notre territoire. Moi, j'avais personne avec moi, hein. On a un problème aussi, c'est qu'on est dans le toujours plus, mais personne ne regarde la transition.
Alors, commentaires et réactions, Francis Allais, des propos.
C'est typique de Macron.
D'Emmanuel Macron.
C'est typique de Macron. On l'écoute avec plaisir, mais on constate qu'il ne fait rien. Ou alors, s'il fait quelque chose, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. La montagne d'or en Guyane, c'est typique.
Vous pouvez expliquer ?
Une réserve d'or dans le nord de la Guyane, il y en a pas mal. Hein. Il faut évidemment garder ça sous forme de massif forestier. La biodiversité qu'il y a là-dedans est bien plus importante que l'or. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'or? C'est pas un métal utile. Non, c'est très scandaleux. Des paroles d'un côté et des actes qui vont à l'envers.
Et comment l'expliquez-vous? Là aussi, par les lois du libéralisme qui nous gouverne.
Non, alors, il est totalement libéral. Mais par contre, il s'est aperçu que pour des raisons électorales, il valait mieux avoir un langage un peu écologiste, donc il le fait, c'est un très bon acteur.
Avez-vous la possibilité de parler à nos tutelles politiques et en vertu de l'exercice de votre science, qui encore une fois est incontestable et incontestée, de pouvoir porter cette parole du respect de la biodiversité?
Je l'ai fait. J'ai écrit à Macron il n'y a pas longtemps, au sujet de ce projet de forêt primaire renouvelée en Europe de l'Ouest. Et il m'a donné des bonnes paroles, sympathiques, mais j'attends qu'il fasse quelque chose.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Francis Allais. C'est pour notre plus grand bonheur, le concerto d'Aranjuez, Paco de Lucía.
Thank you.
Nous avons entendu un court fragment du concerto d'Aranjuez de Paco de Lucía, et là vous entendez Francis Allais, vous le reconnaissez sans doute. C'est une des cartes postales sonores des paysages de Bernie Cross, qui est dans la même exposition que vous, merveilleuse exposition. Nous les arbres, en ce moment même à la Fondation Cartier, qui a tellement de succès que pour notre plus grand bonheur, eh bien, elle continue encore. Et Bernie Cross a réussi finalement par un moyen assez sensible et tout à fait convaincant à aller enregistrer finalement les différentes variations de la perte de la biodiversité sous toutes les latitudes en enregistrant les bruits de la forêt. Là, c'est la forêt d'Amazonie. Vous, il y a maintenant quelques années, vous avez imaginé un grand... un grand bateau de toile, un grand radeau des cimes au-dessus des forêts tropicales pour pouvoir observer la vie des...
Tout en haut.
Des arbres. La vie des
Pas
arbres.
Pas que des arbres.
Des plantes, des animaux.
Tous les animaux sont là-haut. Hein.
Alors comment s'est élaboré ce qui au départ n'était qu'une vision, qui est devenue réalité et ensuite laboratoire de recherche exceptionnel?
1982, un jeune universitaire américain, Terry Irwin, il démontre que l'essentiel de la biodiversité est dans les forêts tropicales, ça on le savait, mais que c'est pas au sol, c'est dans la canopée. 1982, lui, il a pas pu monter parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens. Mais moi, ça m'a donné envie, c'est devenu mon objectif dans la vie, de monter là-haut et de regarder comment ça se passe. C'est pas moi qui ai fait le radeau des cimes, hein, c'est deux amis à moi. Un architecte parisien, Gilles Bersolt, et un pilote lyonnais, Danny Cléier-Marel. À trois, on a fait ce truc-là. Voilà.
Combien de temps avez-vous vécu sur ce radeau?
Ça tourne depuis 30 ans.
Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui avec le recul du temps?
Ben que l'essentiel, en effet, de la vie sur la Terre se trouve dans la canopée équatoriale. C'est le milieu le plus vivant du monde.
Ça veut dire quoi, le plus vivant?
Ben vous n'en trouverez pas où il y ait plus de plantes et d'animaux, voilà.
Est-ce à dire qu'il y a une supériorité des plantes sur nous, êtres humains?
Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes, nous aussi, des animaux de canopée. Hein. On est originaire des canopées équatoriales de l'Afrique de l'Est, il y a 2 millions d'années pour notre genre Homo et 300 000 ans pour notre espèce sapiens.
Oui, mais les plantes et les arbres sont plus anciens que nous.
Oh ben bien entendu, ça date du Dévonien, c'est 400 millions d'années.
Et les plantes et les arbres vont-ils continuer si jamais on peut faire de l'anticipation
continuer
à exister, même en cas de guerre nucléaire?
Sans aucun doute. Attendez, on peut voir ce qui se passe à Hiroshima et à Nagasaki maintenant. On parle toujours du ginkgo, mais il y a des quantités d'espèces qui ont repoussé. Non, les plantes ont une résilience que nous pouvons leur envier.
Qu'entendez-vous par résilience et comment pouvez-vous la qualifier, cette résilience des plantes?
C'est pas compliqué. Je prends un être vivant, je le coupe en deux, il est mort. Je prends un arbre, je le coupe en deux, ça fait deux arbres. Si je le coupe en quatre, ça fait quatre arbres. Si vous me donnez un sécateur et du temps, je vous fais des millions d'arbres à partir d'un arbre unique. Parce que c'est pas des individus, c'est des colonies.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre seuls?
Si, il y en a qui sont... Oui, enfin, voilà, c'est des structures extraordinairement résilientes. Et nous...
Qu'entendez-vous par colonie?
Un corail? Un récif de corail? Il y a un petit être élémentaire qui a quelques millimètres de long et qui vit quelques mois, pas plus. Mais la colonie elle-même, c'est quelque chose de formidablement puissant et d'immortel. C'est ça que ça sous-entend de devenir une colonie.
Et la colonie autorise-t-elle la solidarité?
Entre quoi?
Les arbres.
Entre les colonies?
Oui.
Oui, il n'y a pas d'objection. Oui, il y a effectivement une solidarité. Il y a beaucoup de compétition. Hein. Parce que si vous montez plus haut que l'autre, vous le mettez à l'ombre et il meurt.
La compétition, c'est l'appât de la lumière et de l'eau.
Pour la lumière, oui.
Les arbres ne peuvent se comprendre sans l'étendue de leur surface d'échange. Ce sont les êtres vivants qui ont le plus de surface d'échange.
Oui, c'est vrai.
Et donc, à ce moment-là, on peut se dire qu'un arbre est interdépendant de tas de facteurs. on peut penser que les êtres humains sont peut-être moins dépendants que les arbres ou que les plantes.
On arrive à s'extraire du climat, nous. Regardez la température qu'il fait ici, c'est pas le climat, c'est un climat que nous avons fabriqué parce qu'il nous convient. La plante, elle vit dehors.
Donc elle s'adapte.
Exactement.
Elle s'adapte à toutes les situations.
Un animal, lui, il peut s'enfuir. Devant un problème, il s'enfuit. Ce qui est d'abord, c'est pas très courageux. Ensuite, c'est la certitude que le problème restera entier. Devant un problème comme ça, la plante, elle ne peut pas s'enfuir. Donc, soit elle meurt, soit elle résout le problème.
Et généralement, elle résout le problème.
Oui, parce qu'elle s'adapte.
Vous évoquez dans un de vos ouvrages, alors ça, je crois que c'est encore un autre ouvrage magnifique qui s'intitule « Plaidoyer pour l'arbre », le cas d'une plante, et là, je me souviens plus du nom, qui est obligée de cohabiter avec des fourmis, mais qui utilise les fourmis
Comme défense.
Pouvez-vous expliquer ce sens de l'adaptabilité des plantes par rapport à ce qui pourrait apparaître comme un milieu ennemi? Ils en font des amis, des ennemis.
Je remonte un tout petit peu plus haut. Tout le monde connaît l'ortie qu'on a ici. Ça pique.
Ah oui, on n'aime pas ça, surtout bon, quand on est enfant et qu'on se fait piquer.
Oui, eh bien les arbres dont vous parlez, c'est la même famille que les orties, mais ils piquent pas. Alors, s'ils se contentaient d'être comme ça, sans piquer, ils seraient vite mangés. La solution pour elles, l'adaptation, c'était d'attirer des fourmis, de les nourrir, de manière à ce que les fourmis viennent habiter dans le tronc. Et dès que quelqu'un touche à l'arbre, on est agressé par les fourmis. Donc, ils ont résolu le problème. Voilà.
Je vous propose d'écouter Agnès Varda, avec qui vous cohabitez dans cette merveilleuse exposition. Agnès Varda à propos du sentiment de la nature et de l'importance pour elle de ce sentiment. C'est une archivina du 9 août 1965.
Le sentiment de la nature, pour moi, c'est un des sentiments basiques. Il conditionne pratiquement tous les autres sentiments. Il y a des gens qui sont en rapport plus net avec les éléments naturels, mettons, que d'autres. Mais ils sont en tout cas proches des éléments naturels dans lesquels ils vivent. Même si leur sentiment n'est pas un sentiment de nature. Je veux dire, le personnage du bonheur éprouvait un sentiment très fort de la nature. Alors lui, nettement, c'est un être. J'ai même été jusqu'à dire qu'il s'apparentait plus au règne végétal qu'au règne animal ou humain. Dans la mesure où, vraisemblablement, il avait une espèce de vie végétative très liée aux saisons. Cette espèce d'éclosion et mûrissement... comme ça, de la vie végétale.
Nous venons d'entendre la voix d'Agnès Varda qui évoque un de ses premiers films, Le Bonheur, qui effectivement ne se passe pas dans la forêt équatoriale, ni même dans une forêt primaire, mais dans un parc très beau, avec tous les registres de la beauté de la nature, notamment en automne, saison que nous traversons en ce moment. Francis Allais, est-ce que ce sentiment de la nature, nous pouvons l'éprouver naturellement, si j'ose dire, sans avoir connaissance de la complexité, de l'architecture de ce vivant?
Bien sûr. Bien sûr, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'ouvrir l'esprit. Je voudrais dire que les forêts primaires dont on parlait tout à l'heure, c'est non seulement le sommet de la biodiversité, en termes de nombre d'espèces, c'est aussi le sommet de l'esthétique. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde.
Pourquoi ?
Là, vous m'embarrassez. Pourquoi ?
Parce que c'est le réservoir de l'humanité.
Oui, c'est le réservoir du vivant, en tout cas. Oui. En tout cas, je constate que c'est le sommet de l'esthétique. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des analyses architecturales pour être sensible à ça. Il suffit de s'ouvrir l'esprit et de profiter de ce qu'on a devant les yeux.
Pourquoi, dans les grottes et dans l'art paléolithique en général, n'y a-t-il pas de représentation de plantes ou d'arbres, selon vous ?
C'est faux.
Ah.
Il y a un jeune Espagnol qui a fait un bouquin extraordinaire. En fait, c'est plein de plantes. Simplement, les paléontologistes, ils n'ont pas voulu les voir. Les artistes de l'époque dessinent un petit sapin et ils appellent ça un symbole phallique.
Ah oui, donc il y a eu dépréciation du regard scientifique aussi sur les espèces vivantes, comme les plantes et les arbres.
En fait, il y a plein d'arbres dans ces représentations. Bon, ils préféraient les animaux, hein. Ils ont déployé des ressources artistiques sans limite sur les animaux. Mais les arbres sont là.
Pourquoi, Francis Allais, par rapport à toutes les expériences que vous continuez à vivre, par rapport à ce rôle de voyageur et d'observateur scientifique, avez-vous été amené à prêter des caractères psychologiques aux arbres? Par exemple, prenons la timidité, ce que vous appelez la fente de timidité.
Ça m'ennuie votre exemple, parce que la timidité, on ne sait pas à quoi elle sert et on ne sait pas comment ça marche.
Bah, on sait très bien qui sont les gens timides dans nos entourages.
Non, je parle de celle des arbres.
Bah oui, mais...
Et rien que ce terme qui est... Bon, c'est donner aux arbres un sentiment humain, je ne crois pas qu'il faille le faire.
Mais ça existe pourtant.
Oui, ça existe, mais je ne peux rien en dire puisqu'on ne sait pas.
Et comment ça se caractérise, puisque vous l'avez observé, cette fente de timidité?
Tout le monde peut l'observer, et c'est même en France. Hein. C'est des arbres qui ne veulent pas se toucher, voilà, qui laissent une fente. C'est très beau, mais ça reste totalement énigmatique, un peu énervant pour les scientifiques. Ça va venir, hein, on va trouver.
De plus en plus, vous l'avez fait observer tout à l'heure, Francis Allais, les personnes, que ça soit au Japon, que ça soit maintenant en Europe, se sentent mieux s'ils vont voir des arbres. Quelquefois, ils les caressent, ils les enlacent, ils gravent le tronc, ils écrivent des histoires d'amour, ils y sculptent des cœurs, etc., etc. On dit qu'il y aurait des études de psychologie qui prouveraient que quand les êtres humains comme nous sommes au milieu des arbres, on désarmerait un peu de notre agressivité. Vous pensez que c'est vrai ?
Oui, je suis tout à fait de cet avis. Les travaux qui se font là-dessus, c'est au Japon. Mais écoutez, on n'a pas attendu les Japonais pour savoir qu'une balade en forêt, ça fait du bien. Et toujours, j'ai toujours compris ça. Ce qu'ils ont fait, les Japonais, c'est qu'ils ont justifié ça sur le plan médical. Effectivement, ça diminue le stress, ça augmente vos défenses immunitaires, etc.
Vous savez que le prix Nobel de littérature a été attribué il y a quelques semaines à Peter Handke. Vous savez que c'est un grand amoureux de la nature et notamment des forêts, qui vit à la lisière d'un bois, qui ne peut pas vivre sans partir tous les matins, se perdre dans cette forêt qu'il dit pourtant bien connaître. Je vous propose de l'écouter. Il va parler du bois de Chaville. C'était le 24 novembre 2017.
Si vous montez à l'étage, si vous voyez vraiment magnifiquement comme le bois, là, on appelle ça les bois de Chaville, mais tout ensemble, ça s'appelle forêt de Meudon. Ça traverse tout de Versailles, Versailles jusqu'à Meudon, même à Clamart, ça fait une grande baie, magnifique. Mais il faut monter, ça se voit, non? Il y a la tour hertzienne, qui est comme un symbole au milieu. Ça signifie... Ça marque la frontière entre Sèvres, Meudon et Chaville. C'est 5 minutes, je suis dans la forêt. Mais c'est pas une idéologie, mais on me pose toujours des questions. La forêt. Parfois, je sens moi-même que la forêt, elle en a marre de moi. Quand j'entre, je sens les arbres, ils disent encore celui-là.
Peter Handke inverse les choses. Il dit... La forêt en a marre de moi, comme si la forêt était un être vivant et pouvait signifier aux êtres humains que nous sommes, tu viens trop me voir, t'en demandes trop, tu m'en demandes trop. C'est possible,
ça ? Je le regrette pour lui, moi ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu l'impression que la forêt m'avait assez vu. En tout cas, moi je l'ai pas assez vu.
Et vous, vous pratiquez aussi la promenade en forêt?
La promenade, bien sûr, bah oui.
Tous les jours, ça vous est indispensable?
Quand je suis dans les tropiques, c'est tous les jours, c'est toute la journée.
Et toutes les nuits aussi?
Les nuits, on met le hamac entre deux arbres et on est très très bien.
Quels sont les bruits de la forêt la nuit?
Très difficile à décrire. Ça démarre dès que le soleil se pose et ça commence par des millions de grenouilles. Batraciens qui sont dans la canopée. Ensuite, au cours de la nuit, il y a comme un espèce de chef d'orchestre. Ça se calme là, et fortissimo de l'autre côté, puis ça s'inverse. Et petit à petit, la faune change. Il y a de moins en moins de grenouilles, de plus en plus d'insectes. Et puis, pour finir, de plus en plus d'oiseaux. Et le matin, c'est un concert d'oiseaux. Et on se réveille avec ça. Non, c'est incroyable. C'est très, très beau. Je regrette que, apparemment, ça n'ait jamais été... enregistré pleinement.
Ah ben, on va venir avec vous dans la prochaine expédition. pour enregistrer avec nos petits magnétophones. Mais j'ai remarqué qu'avant de monter sur votre radeau, vous buviez un petit peu de punch au citron vert, non ?
Plutôt en redescendant.
Ah d'accord.
Et là-haut, bien sûr, on a tout ce qu'il faut.
Dernière question, Francis Allais. Un de vos livres se termine par un témoignage assez bouleversant de votre part, disant que vous avez besoin des arbres, parce que les arbres représentent la figure de l'altérité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Eh bien écoutez, je regrette de constater que dans le monde actuel, quand on parle des arbres, on y voit des êtres humains. Si vous regardez une BD, par exemple, l'arbre, il a un nez, il a des yeux, et bon. Tout ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'on n'a rien compris. Cocteau. Puisque ce mystère nous dépasse, feignons d'en être les organisateurs. C'est ce qu'on fait. Non, alors si on veut comprendre les arbres, il faut arrêter de les prendre pour des êtres humains. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je m'attache à cette altérité.
Êtes-vous devenu un arbre ?
Mais non, justement pas. Sinon, il n'y aurait pas d'altérité.
Ben, merci beaucoup, Francis Allais.
Merci à vous, Laure.
Merci pour vos films, merci pour vos livres. Je rappelle quelques titres, Plaidoyer pour l'arbre. Je rappelle aussi, évidemment, cette exposition qui a lieu en ce moment même à Paris, Nous les arbres, à la Fondation Cartier. Et un autre titre de Francis Allais, Plaidoyer pour la forêt tropicale, Sommet de la diversité. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique.
Auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment. Auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Avant convoité monde meilleur, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage. Thank you.
Et c'est avec Dominique A. et ce titre Beau Rivage que nous nous quittons ce soir. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses précieux conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, presque comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous comme chaque soir avec l'ami Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.